Évangile de Luc au chapitre 17. Luc 17. À partir du verset 11 au verset 19. Hier soir, en me couchant, j'avais le message pour ce soir. Et ce matin, 5 heures, j'étais réveillé. En me disant, c'est pas ça. Et donc, à 5 heures, je me suis levé, j'ai préparé le message pour ce soir. Je me suis dit, Seigneur, si après il faut faire autre chose, on aura deux messages de réserve. Mais bon, on va rester sur celui-là, il n'y a pas eu d'autre contre-ordre. Et une pensée est venue sur mon cœur par rapport à une situation, une circonstance qui peut être aussi un peu la nôtre. Le titre que j'ai mis au message, c'est « Sur le chemin de la guérison ». Et le texte nous dit qu'au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». En le voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés, mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir à donner gloire à Dieu ?» Puis, il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. En lisant ce texte, il y a différentes choses qui interpellent. La première, c'est le voyage de Jésus. Le texte nous dit que Jésus poursuivait sa route vers Jérusalem. Il sait très bien où il va. Il sait très bien pourquoi il va à Jérusalem. Il sait très bien ce qui l'attend à Jérusalem. Et il ne choisit pas un des deux chemins les plus courts. Mais en réalité, il fait un détour. Et Luc, le docteur Luc, nous donne cette information qui pourrait passer entre les gouttes en nous disant qu'en effet, il est en train de faire un cheminement entre la Samarie et la Galilée. Il y a des moments où le Seigneur a fait des détours dans son ministère pour une âme. Preuve que pour Christ, une âme a de la valeur. Amen. Et le texte ne nous dit pas que dans ces occasions, Jésus a été voir un roi, un prince, un premier ministre. Il a été retrouver des personnes qui étaient en souffrance, des personnes en difficulté, des personnes voire pauvres, qui avaient tout perdu. Et dans le cas présent, Jésus se retrouve face à des hommes, des malheureux, des lépreux, qui vont en réalité crier à lui pour demander du secours. En effet, ces lépreux étaient exclus par la loi. Leur état de santé, et je dirais la maladie qu'ils avaient, était une maladie qui était transmissible. Aujourd'hui encore, elle existe. Il y a des moyens de soigner, si pris rapidement. Si pris trop tard, ça peut faire encore des dégâts, même des morts. Mais dans la lecture que nous pouvons faire dans le texte, nous voyons qu'il y avait toute une disposition que Dieu avait donnée à Moïse et que Moïse avait rendue au peuple pour savoir comment agir. Moi, j'ai pris juste un extrait du livre du Lévitique au chapitre 13, à partir du verset 45 à 46. Il nous dit « Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Si vous faites toute la lecture du texte de Lévitique, il vous dit comment il fallait déceler la maladie, quels étaient les tests à faire pour savoir si c'était une maladie qui rendait impur ou pas. Mais quelle qu'il soit la condition, même quelqu'un qui était atteint de la lèpre, en faisant cette lecture de ce texte du Lévitique, on voit qu'il y avait, par Dieu, une possibilité d'être guéri. En réalité, quand un lépreux était purifié, il devait revenir vers les sacrificateurs et les sacrificateurs allaient établir qu'il était pur, donc il pouvait reprendre sa place dans la société. Malgré les maladies qui peuvent toucher l'être humain, Dieu a prévu des moyens de guérir. Même des maladies qui peuvent amener à la mort. Preuve en est que Dieu a un plan de salut pour les hommes. Un salut de l'âme, mais aussi un salut du corps. Et en lisant ce texte, faites l'expérience à la maison, lisez-le, vous allez voir, c'est un récit qui est très détaillé. C'est quelque chose qu'on pourrait se dire, voilà, si on se trouvait dans telle situation, on a un béaba pour savoir comment agir, comment intervenir. Il était question aussi de la lèpre qui pouvait toucher les maisons. Comment il fallait faire? Pourquoi? Comment agir? Et dans le cas où il n'y avait pas moyen, tout devait être mis dehors pour éviter que la maladie se répande dans les autres habitations et que d'autres aient d'autres dégâts. Donc, il est question en réalité d'une volonté de Dieu de protéger son peuple, mais en même temps de ramener à une réflexion des hommes et des femmes qui se trouvent dans la maladie à compter sur Dieu. C'est dit, les lépreux ne pouvaient pas compter sur les autres. Ils comptaient sur eux-mêmes, ils se sont rassemblés, il y en avait 10 ensemble, peut-être pour se soutenir, s'aider. La maladie de la lèpre, en effet, ce qui produit, c'est que des parties du visage, du nez, des doigts tombent. Donc la personne, elle perd son identité, elle perd sa mobilité, elle perd son aspect... Sa vie se détruit, elle part en lambeaux. Et le texte nous dit qu'en plus, il devait être habillé d'une manière pour se rendre identifiable. Crier en disant impur. Ce n'est plus une vie. Il y a quelque chose qui marque. Il y a quelque chose qui pèse. Et Jésus fait ce détour. Parce que lui, il est prêt à porter le poids. Quel qu'il soit le parcours, quelle qu'il soit la vie, quand quelqu'un crie à Dieu et implore le secours de Dieu, Dieu est capable d'entendre. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est que dès qu'il voit Jésus, Jésus, en effet, il intervient dans leurs problèmes, mais d'une manière un peu particulière, dans le sens qu'il leur demande d'aller voir, les sacrificateurs. Donc, il ne voulait pas qu'ils se soustraient à la loi qui avait été donnée par Dieu. Mais en même temps, est-ce que quand ils sont partis, qu'ils ont quitté Jésus, est-ce qu'ils étaient guéris? Ils auraient pu se dire, mais attends Jésus, il y a des gens qui sont venus vers toi, tu les as guéris à l'instant. Pourquoi nous on doit repartir sans être guéris? Dans un autre des évangiles, dans l'évangile de Matthieu, il est question d'un homme lépreux qui vient et Jésus le touche. Généralement, on devient impur. Jésus nous montre que même là, son amour dépasse, n'est-ce pas? Quitter Jésus sans avoir été guéri, quelle garantie? Arrive des moments dans notre vie personnelle, qu'on soit déjà engagé avec Dieu ou pas, où Dieu en effet met un peu à l'épreuve notre foi. Il y a une parole et nous dit « vas-y ». Fais ce que je te dis. Ah, mais attends, Seigneur, j'aurais aimé que je sois guéri maintenant. Comme ça, ce soir, je vais pouvoir le témoigner, Seigneur. Tu sais, les réseaux sociaux, ça marche bien. Tu me guéris, je mets une photo sur Facebook et demain, l'église, elle est pleine. On essaye des fois de marchander avec Dieu. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Je disais, Seigneur, si tu fais ça pour moi, moi, je ferai ça pour toi. Et jusqu'au jour où j'ai compris que mais en réalité, Dieu n'était pas un vendeur de tapis. Et qu'en réalité, ce n'est pas à moi de dire à Dieu comment on va faire. c'est d'écouter ce que Dieu me dit, de le faire, et après le reste lui appartient. Choc total le jour où j'ai lu que le prophète Élie mourut, ou c'est Élisée, vous corrigez, de la maladie dont il était malade. Ah, je me suis dit, Seigneur, il a fait tellement de miracles. Pourquoi tu ne l'as pas guéri? Pourquoi il ne s'est pas guéri lui-même? Il n'a auto-imposition des mains. Non? Mon papa a des problèmes de santé. Et il y a quelques années de cela, il était en train de travailler avec les débroussailleuses. Et sans s'en apercevoir, il a touché un essaim d'abeille. Et alors qu'il avait le casque et tout, il a rien vu. Et les abeilles ont commencé à le piquer. Et vous savez qu'après un certain nombre de piqûres, ça peut être très dangereux. Et donc, d'un coup, il s'est senti piqué, il s'est rendu compte, il a tout lâché, il est parti en courant, la débroussailleuse, elle a continué tout seul à faire le travail du jardin. Et lui, il est rentré à la maison, il n'avait pas la voiture. Ma maman était partie avec, le téléphone, la ligne téléphonique ne fonctionnait pas, le téléphone portable était dans la voiture qui est partie avec ma mère. Et il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il a prié, demandé le secours de Dieu et Dieu a été bon et fidèle. Moi, je crois qu'il y a des moments où Dieu nous place dans un contexte, dans une situation qui nous dépasse. Et pour autant, par moments, il nous demande de faire preuve de foi et il nous met un peu à l'épreuve. Vas-y, marche. Les 10 Lébreux prennent la route. Quelle garantie? Quelle garantie avons-nous avec Jésus? Est-ce qu'on a une garantie avec Jésus? Êtes-vous convaincu que vous avez une garantie avec Jésus? Ah, je vous sens pas forcément à 100% convaincu. Hein. Je vous sens mi figue mi raisin. Est-ce que vous êtes convaincu que si Jésus vous dit quelque chose, ça marche? Oui? Sûr? Bien, Serena. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon infidélité, mon incrédulité, pardon. Seigneur, je crois, mais on ne sait jamais. C'est vrai que ces hommes, ils sont venus et ils ont crié à celui qui est maître, Seigneur, et ils ont demandé du secours. Quand nous prions, quand nous demandons le secours de Dieu, nous devons être assurés que le secours de Dieu viendra, même si on ne le voit pas tout de suite, même s'il nous demande de reprendre le chemin, même si le chemin nous amène dans un lieu où on n'a pas envie d'y aller, parce que ce n'était pas évident. Vous imaginez aller à une visite médicale où on va commencer à vous regarder derrière les oreilles, on va commencer à vous... Excusez-moi, moi, j'aime pas qu'on me touche. Les médecins, c'est... Voilà, je les aime, mais de loin. Si c'est fraternel, amical, j'ai aucun problème. Mais si c'est un médecin, ça me pose problème. C'est comme ça, je crois que c'est épithélial. Et donc, vous imaginez la gêne de devoir, excusez-moi, se mettre à nu devant quelqu'un pour être examiné. Ils prennent le voyage, ils font la route. Et pendant qu'ils font cette route, ils doivent continuer à crier, impur. Ils doivent continuer à porter des habits qui font qu'ils sont considérés des lépreux. Je dirais que c'est une double peine. Il y a la souffrance, mais il y a en plus ceux qui doivent s'affliger eux-mêmes à cause de la maladie. Le texte nous dit qu'en y allant, ils sont guéris. Est-ce que on a entamé le chemin de la guérison pour notre vie? Est-ce qu'on a entamé ce cheminement qui nous amène pas après pas à vivre quelque chose que Dieu a prévu, mais à un moment particulier, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a plusieurs années en arrière, c'était en 93, je m'en rappelle. Ça date un peu, j'étais jeune. Ça, c'était avant. J'étais à un séminaire avec Paul Yonquichot. Je ne sais pas qui a entendu parler de ce prédicateur. Et pendant ce temps de congrès, on avait eu un temps particulier où on avait pu s'entretenir avec lui. Et je me rappelle, moi j'étais arrivé et j'avais des verrues sur les mains, sur les bras. J'en avais plusieurs. J'en comptais plus. J'avais tout essayé, dermatologue et tout le reste. Et ce soir-là, il y avait une parole. Il y avait une parole qui avait été donnée pour quelqu'un. Alors, je crois qu'on était au moins 5 à 6 000 personnes aux réunions du soir. Il y a eu une parole. Tu es venu, tu as des verrues, voilà, le Seigneur te libère. Je dis, Seigneur, c'est pour moi. Alléluia, je le prends. Je prends. Je lâche pas. Alors, on aurait pu dire, attends, il y a 5 à 6 000 personnes, qu'est-ce que tu en sais? C'est pour moi, je veux rien savoir. Moi, je prends. Peut-être qu'on était 10 ce soir-là. Allez voir. Quand je suis reparti de là-bas, j'ai commencé à regarder, mais pas disparu. Hein. Je suis rentré en Italie, mais moi j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait une promesse, maintenant tu te débrouilles. Seigneur, c'est toi qui le fais. Et à peu près 15 jours après, en me lavant le matin, tout avait disparu. Les mains, les bras. Il y a par moments... Dieu nous demande de faire confiance et d'entamer un chemin. Ces 10 lépreux ont reçu une parole. Ils ont pris le chemin. Et les 10, ils ont fait la route. Ce qui est particulier, c'est que pendant qu'ils sont en chemin, ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Et parmi ces 10, il y en a un seul qui revient en arrière. Et quand on lit ce texte pour la première fois, je ne sais pas l'effet que ça vous a fait à vous, mais en lisant ce texte, j'ai trouvé les propos de Jésus pas sympas. Il n'y a qu'un Samaritain pour venir. On aurait le sentiment que Jésus, à quelque part, Jésus amour, mais là... Et quand on prend le texte dans son contexte. En effet, Jésus est en train de dire sur les 10 personnes, il y en a 9 qui connaissent ce que la loi dit. Et la responsabilité qui est la nôtre quand on reçoit une grâce, d'être aussi capable de rendre gloire à Dieu. Et parmi ces 10, il y en a un qui n'a pas le même bagage de connaissances. Mais lui fait ce qu'il ne sait pas. Et ceux qui savent ne le font pas. Peut-être que les 9 autres étaient heureux de reprendre leur vie normale, retrouver leur place dans la société, retrouver leur place dans leur famille, retrouver leur place dans la vie de tous les jours, pouvoir tous les matins se laver, se préparer, sortir parfumé, avoir passé de l'huile sur leur corps, pouvoir aller avec les uns et les autres fêter Pâques, pouvoir fêter avec les frères, les amis. Et cet homme-là, pour lui, sa vie, maintenant, c'est Christ. Avant, sa vie était perdue à cause de la maladie. Maintenant, sa vie, elle est gagnée parce que Christ est rentré dans sa vie. Et il revient en arrière. Et quelque chose qui est interpellant, c'est que Jésus pose la question pour attirer l'attention des disciples sur un sujet bien précis. Mais le propos de Jésus est très particulier parce que il lui dira « Ta foi t'a sauvé ». Il lui dira pas « Ta foi t'a guéri ». Donc la vraie question pour nous, c'est où plaçons-nous notre foi ? Dans la guérison ou dans le salut ? Les deux, Mais qu'est-ce qui est le plus important? Mais on pourrait se dire, Seigneur, toi, tu es capable de faire les deux. Oui, certes. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus nécessaire? Sur les 10, qui a été sauvé? Pourquoi? Les 10 ont entendu le message. Les 10 ont reçu la guérison. Mais il y en a un seul qui est revenu pour recevoir le salut. C'était sur une décision personnelle. On pourrait presque se dire qu'il a désobéi à Jésus. Mais en réalité, il a obéi à Dieu. Il a fait ce qui était juste de faire. Ce qui était le plus important pour lui, c'était en réalité non pas de retrouver sa vie normale et de se dire à partir de maintenant je vais vivre à fond, mais c'est de se dire maintenant je vais vivre pour Christ. Mon rôle, ma responsabilité, c'est d'adorer Christ, de louer Christ. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui sont passées très près de la mort. Et quand quelqu'un passe très près de la mort, la vie prend un goût différent. Et souvent, ce que la personne dit, c'est que les petites choses ont une image beaucoup plus grande. C'est comme si une loupe se mettait et les petits trucs qu'avant ils ne voyaient pas, là maintenant ils ont de la couleur, ils ont de la valeur, ils ont de la saveur, ils ont de l'odeur. Et la vie, elle vaut d'être vécue et ils la vivent à fond. Et on peut comprendre les 9 autres, moi je ne veux pas les juger. Mais cet homme, ce Samaritain, a compris que la vie, c'est Christ. Et il ne s'est pas contenté d'avoir la guérison. Il voulait plus. Il aurait pu se contenter de la guérison, mais il voulait plus. Il voulait le salut. Il voulait cette assurance que plus rien ne l'aurait séparé de Christ. Quand cette assurance est dans notre cœur, quelle qu'il soit la maladie que nous portons, n'a plus la même envergure, n'a plus le même effet dans notre vie. Parce que Christ, c'est tout. Christ est le plus important. Christ prend une place prédominante dans notre vie. Jésus, quand il prononcera ces paroles en disant où sont les autres 9, c'est avec une certaine tristesse qu'il le dira. Parce qu'ils n'ont pas su revenir au pied du Seigneur. Combien de miracles avons-nous déjà vécu? Avez-vous déjà pleuré après un miracle? Combien de fois? On y repense et pouf! C'est vrai? Est-ce que vous pensez à votre conversion? Est-ce que ça fait encore écho dans votre cœur? Est-ce que vous vous rappelez quand le Seigneur est venu sonner à la porte de votre cœur ou frapper à la porte de votre cœur? Oui? Est-ce que ça bouillonne encore? Est-ce qu'on trouve encore cette réaction de dire Seigneur, je me mets à genoux et je te loue, je te glorifie, je t'exalte? On se sent un peu comme ce lépreux, non? Avant, ni on pouvait se voir regarder au miroir, ni les autres pouvaient nous regarder. Mais maintenant, notre visage est rayonnant. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui nous transforme. Il y a quelque chose qui nous change parce qu'on a entamé le chemin de la guérison. Premièrement, la guérison de l'âme. Après, certes, on prie et on croit. Moi, je crois à la guérison physique. Je crois au fait que Dieu est capable de guérir complètement. Je crois au fait que le Seigneur peut intervenir dans toutes les circonstances, toutes, toutes. Il n'y a pas de chose que Dieu ne puisse pas faire. Et c'est quand nous, on se sent complètement désarmé que Dieu fait le miracle. C'est quand nous, on ne maîtrise plus rien. Et c'est là qu'on est spectateur de la gloire de Dieu. Mais par moments, frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'entamer un chemin, d'écouter sa voix et de marcher. Est-ce qu'on est en chemin? Oui? Qui a besoin de quelque chose de particulier ce soir? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je te dépose mon fardeau et après je prends le chemin. Le chemin que toi tu me donnes. Jésus leur a donné la direction, allez et faites ceci. Pourtant, ils pourraient dire, Seigneur, mais c'est la loi, c'est pas la grâce. Nous, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Si on observe bien la loi, c'était la loi de l'amour. Et si on observe bien la grâce, c'est la grâce qui nous amène quand même à vivre selon des règles qui sont celles qui respectent l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Il y a un juste équilibre. Il y a un juste équilibre. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, donne-moi la direction à prendre ce soir. Seigneur, comme c'est dit lépreux, Seigneur, je viens et peut-être je suis le samaritain du groupe, j'en sais rien. Mais ce soir, Seigneur, je veux aller outre les besoins et les désirs qui sont les miens. Ce que je désire, Seigneur, c'est de faire de toi le seul objet de ma louange, de ma adoration. Seigneur, ce que je désire le plus au monde, Seigneur, c'est d'entendre ta voix me dire « Ta foi t'a sauvé. Ta confiance en moi t'a sauvé. Ton espérance en l'Éternel t'a sauvé. » Je ne sais pas quelle est la direction que Dieu veut donner à votre vie, mais certainement c'est la direction que Dieu a préparée pour vous et il est question de la parcourir, pas après pas. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas les choses, gardez les yeux fixés sur Christ. Seigneur Jésus. Seigneur, ces hommes avaient perdu une part de leur vie. Et pour leur famille, ils étaient déjà morts. Intouchables. C'était des personnes qu'on ne pouvait plus approcher. Mais tu agis d'une telle manière où tu as pris du temps pour aller les voir, pour les trouver, pour les bénir. Seigneur, encore ce soir, tu es celui qui nous cherche, tu es celui qui nous interpelle, tu es celui qui répond à nos prières, tu es celui qui nous guérit. Seigneur, mais la guérison du corps est une chose, mais la guérison de l'âme en est une autre. Quand une âme souffre, Seigneur, peut-être le corps va bien, mais tout le reste est dans une souffrance terrible. Seigneur, cet homme avait besoin de plus. Toi seul, tu sais ce que nous avons besoin encore ce soir, Seigneur. Mais certainement, on a besoin de plus. Seigneur, certainement, on a besoin de plus de toi. Plus de ta présence, plus de ta parole pour nous, Seigneur, plus de ta grâce, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos familles, Seigneur. Seigneur, ta main demeure tendue pour tous ceux et celles qui demandent du secours, mais tu n'obliges personne. Seigneur, je veux te demander encore ce soir que tu puisses être celui qui nous donne une parole et une direction. Pour que nous soyons dans le chemin de la guérison morale, spirituelle, physique. Et que nous puissions, Seigneur, à l'image de cet homme, avancer. Malgré tout. Parce qu'il y a une parole. Parce qu'il y a une promesse. Seigneur, ta promesse, Seigneur, qu'elle puisse résonner dans nos cœurs et dans nos oreilles jusqu'au moment où on l'a atteinte. Que ta parole puisse continuer à travailler nos cœurs et nous donner la force d'avancer pas après pas. Que ta parole puisse retentir en nous et être pour nous une source d'inspiration, Seigneur. Seigneur, qu'elle soit pour nous comme une boussole qui nous donne la direction à prendre, Seigneur. Seigneur, nous te prions et nous te remercions parce qu'encore ce soir, tu es celui qui est capable de venir à la rencontre de chacun de nous. Seigneur, tu connais le cœur de chacun et toi seul peux y répondre. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va rester dans cette attitude de prière. Je demanderai à chacun de garder les yeux fermés, s'il vous plaît, la tête baissée. Est-ce que quelqu'un aurait besoin ce soir, particulièrement de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme un pas de foi, je vous invite, voilà, à lever votre main, à dire, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Amen. Oui, on va prier. Seigneur, tu vois les mains qui se lèvent pour te dire, Seigneur, j'ai besoin de plus. J'ai besoin encore. Seigneur, on a en toi un secours. Tu n'as pas touché ces hommes, ils t'ont pas touché. Mais tu leur as donné une parole. Et encore ce soir, Seigneur, tu nous donnes une parole. Seigneur, je veux invoquer, Seigneur, ta guérison divine, ta grâce, ta miséricorde, ton secours, Seigneur. Seigneur, en tout ce que chacun a besoin, que toi tu puisses y répondre. Seigneur, que chacun ait aussi ce réflexe de revenir à tes pieds pour te remercier, témoigner de ta bonté. Seigneur, ne pas garder pour soi, Seigneur, quelque chose comme si ça avait été un cadeau personnel, intime. Mais Seigneur, comme quelque chose à partager. Seigneur, parce que c'est la bonté de Dieu. Et plus on la partage, plus il y en a. Seigneur, que l'évangile que tu inscris dans nos cœurs puisse être débordant. Et que nos vies, Seigneur, et nos cœurs soient débordants d'adoration pour toi. Merci, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.